Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins qui s'interrogent tous les jours sur les liens entre éthique et politique, en compagnie de Marianne Chassor, Samuel Legendre, Antoine Ravon, Tristan Grenassia et Géraldine Bosna-Savoie. À la réalisation Libérée de tout esclavagisme, cette semaine, Nicolas Berger. À la lecture Au cœur de la cité, Jean-Louis Jacopin. Avec aujourd'hui la prise de son Un revenant à France Culture, d'Alia. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Le mythe de l'impartialité, un ouvrage de Jean-Fabien Spitz paru aux éditions PUF. Aristote le Stagirite, le disciple de l'Académie et le maître de ceux qui savent. Le fondateur du lycée et le péripatéticien. L'inventeur d'une logique qui n'est pas une discipline et d'une métaphysique qui ne se situe pas forcément après la physique. Aristote donc, c'est le philosophe à l'honneur cette semaine au Nouveau Chemin. Alors après Pierre Pellegrin qui nous a initiés hier à l'Organon et avant Anne Mercker qui vous plongera dans l'âme de l'âme demain, c'est aujourd'hui le philosophe Francis Wolff qui enseigne la philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm qui vient vous présenter les écrits politiques d'Aristote qui sont peut-être les premiers écrits de philosophie politique pour le meilleur et pour le pire. Aristote aurait manqué à sa vocation de traître s'il ne l'avait pas accompli. Par là d'ailleurs, et dans le sens infernal, il est devenu grand. Dans cette Athènes où, plus que partout au monde, la pensée était libre, et qui pour cela même est resté le modèle inégalé de la suprême beauté, le métèque macédonien, Aristote, espion appointé, a construit un monument de trahison spirituelle qui devait survivre au siècle pour le grand déshonneur de l'humanité. Si toute chose doit être jugée par sa fin ou sa conclusion, l'œuvre d'Aristote se distingue de toutes les autres doctrines philosophiques par ce fait qu'elle justifie le droit du plus fort, l'esclavage, la guerre, l'exploitation du pauvre par le riche et tout ce qui rend l'humanité odieuse. Pour en arriver là, elle part des considérations métaphysiques apparemment les plus désintéressées à travers un réseau de déductions logiques où se retrouvent les manières des arguties sophistiques tant méprisées par Platon et Socrate, le tout dans de pesants et dogmatiques traités. Francis Wolff, bonjour.
Bonjour Adèle Monreil.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance.
Merci de votre invitation.
C'est un plaisir de vous y recevoir à nouveau. Vous êtes l'auteur d'Aristote et la politique, un ouvrage, un petit ouvrage introductif aux écrits politiques d'Aristote. Alors, il vous revient la difficile tâche peut-être de commencer cette émission en prenant la défense d'Aristote face à son pourfendeur, le psychanalyste René Alindy, c'était en 1943. Dans un ouvrage intitulé « Aristote ou le complexe de trahison », qui semble bon, un texte tissé d'une haine délirante à l'égard d'Aristote, mais qui pourtant repose sur des arguments qui peuvent s'entendre, à savoir le fait qu'Aristote justifie, dans son ouvrage consacré à la politique ou les politiques, l'esclavagisme, le droit du plus fort et sans doute l'exploitation du pauvre par le riche.
Alors, il ne s'agit pas de défendre Aristote à tout prix, il s'agit de faire la part des choses. Bien entendu, il y a chez Aristote des choses qui nous choquent très légitimement, et en particulier, on va y revenir dans un instant, sa défense de l'esclavage. Est-ce que c'est la défense du régime esclavagiste tel qu'il avait sous les yeux ? Probablement pas, c'est une question qu'il faut aborder. Mais les deux autres points, la défense du droit du plus fort, absolument pas. Il n'y a rien, mais il n'y a rien, pas un mot dans la politique d'Aristote ou dans ses traités politiques qui défendent cela, bien au contraire. C'est un défenseur de la loi, de la justice contre, au contraire, les positions de ceux qui pensaient qu'il était naturel, en quelque sorte, de défendre la force. La défense du riche contre le pauvre, absolument pas. Il a des paroles extrêmement sévères contre toute forme d'oligarchie. Et il a des textes admirables pour la défense de la souveraineté populaire. Évidemment, peut-être dans un sens différent de celui dans lequel nous l'entendrions. Alors reste en effet deux points dans le texte, le point de la trahison, oui, alors c'est vrai, oui. Aristote est un Macédonien, Aristote curieusement défend une cité à laquelle son maître va contribuer à abattre, ou dont il va contribuer, son maître Alexandre va contribuer à, en quelque sorte, à perdre l'autonomie des différentes cités et Athènes. C'est un étranger à Athènes, au contraire de ses maîtres, Socrate ou Platon. Alors peut-être que, je ne sais pas si on peut le lui reprocher, en tout cas il a sur la cité une vision qui est sans doute plus distancée et peut-être plus objective que celle de Platon et de Socrate. Reste la question de l'esclavage, et elle est centrale. Alors, en effet, pendant trois chapitres du livre 1 de la Politique, Aristote défend le pouvoir despotique du maître sur l'esclave. Alors, cela a fait couler énormément d'encre, cela est extrêmement choquant, il y a plusieurs... Et on peut, en effet, lire toute la philosophie d'Aristote comme une espèce d'illustration. Alors, le texte que vous avez lu ne le dit pas, du concept marxiste d'idéologie, par exemple. Une institution sociale et historique par lesquelles les hommes exploitent le travail d'autres hommes est considérée ni comme sociale ni comme historique, mais comme quelque chose de naturel. Alors la naturalisation d'une institution, c'est vraiment le travail de l'idéologie. Ça, c'est une lecture marxiste tout à fait possible. Et de dire en plus... Et c'est ça qui est sans doute le plus choquant, que non seulement l'esclavage est naturel parce qu'il se fait pour le bien du maître, mais qu'il se fait aussi pour le bien de l'esclave, et que l'esclave n'a qu'à être heureux de son sort. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a lu ça, une fois qu'on s'est indigné de façon extrêmement légitime, il faut essayer de relire le texte à la tête froide, non pas pour défendre Aristote, mais pour essayer de comprendre exactement son raisonnement. Et ce que une lecture attentive de ces quelques chapitres pourrait montrer, c'est les points suivants. 1. Aristote essaye d'abord de définir ce que serait, en théorie, un maître naturel, entre guillemets, et un esclave naturel. C'est-à-dire, un maître naturel, ce serait un être humain qui aurait les capacités de commander à d'autres, et un esclave naturel, ce serait un être qui n'aurait pas la faculté de se commander à lui-même, et qui aurait donc besoin d'un autre, d'un maître, pour se commander. Et donc, cette alliance d'un maître et d'un esclave serait en quelque sorte idéale, puisqu'ils auraient l'un besoin de l'autre pour exécuter, et l'autre besoin du premier pour le commander, et donc se commander à lui-même. Ce serait une espèce d'alliance idéal entre êtres inégaux, de la même façon qu'un couple serait une alliance idéale entre êtres égaux.
Mais c'est pas la même chose de dire que l'inégalité a un fondement naturel et que certains hommes naissent maîtres naturellement et d'autres naissent esclaves naturellement, que de dire que c'est pour le bien de la cité, que tant mieux qu'il en soit ainsi, car du coup, les esclaves peuvent faire office d'instruments à l'égard des maîtres pour servir la cité, puisque le but quand même dans les écrits politiques d'Aristote, c'est de faire en sorte que la cité fonctionne bien pour permettre à l'homme de parvenir au souverain bien.
Oui, alors la grande différence qu'il y a entre cette définition du maître naturel et de l'esclave naturel chez Aristote et la manière dont fonctionne le régime esclavagiste, le régime économique esclavagiste qu'il a en partie sous les yeux, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. C'est qu'il ne conçoit l'esclave, entre guillemets, qu'à l'intérieur du foyer, c'est-à-dire le domestique, en gros. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le domestique, à l'intérieur du foyer, et absolument pas comme un instrument. D'ailleurs, il dit que ce serait un instrument non pas de production, comme étaient un certain nombre d'esclaves qui travaillaient, évidemment, comme instrument de production, mais un instrument d'action, c'est-à-dire à l'intérieur du foyer. On a pu comparer ça à une pratique qui était déjà archaïque à l'époque, qui était ce qu'on appelait la domesticité lignagière, où il y avait des domestiques qui venaient d'autres lignages, etc. Alors, Et deuxième point, on ne va pas passer toute l'émission sur ce point qui par ailleurs...
Non mais c'est important quand même, parce que c'est un des seuls textes philosophiques qui aborde frontalement cette question-là.
Exactement, et on peut dire au fond, gloire à Aristote d'avoir osé aborder cette question que tous les autres textes de l'Antiquité font comme s'ils n'existaient pas, hein, et ce silence... des philosophes, on dirait aujourd'hui des intellectuels face à une des institutions les plus choquantes de l'Antiquité, est quelque chose qui doit attirer notre attention sur le fait que ben, ça leur paraissait tellement naturel qu'il n'y avait pas besoin d'en parler. Et qu'Aristote, d'une certaine manière, ce qui lui apparaît naturel, c'est justement pas ce qui se passe. Et il aimerait bien qu'il y ait esclave et maître naturel, mais c'est pas justement pas ce qui se passe, parce qu'ensuite il a un chapitre dans lequel il dit « Bon, ben alors comment on va reconnaître l'esclave naturel ? Est-ce qu'il est comme si physiquement, il est comme... Ben non, en fait... »
C'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de critères.
D'ailleurs, les textes sont assez compliqués quand même sur l'esclavage.
Exactement. Le texte est très fuyant, très compliqué. Et alors, il se dit, bon, ben, est-ce que ceux qui sont, parce qu'il y en avait quelques-uns, mais qu'on a à peine entendu quelques sophistes qui critiquaient l'institution, ben, est-ce qu'ils ont raison? Ben non, parce que s'il y avait des esclaves naturels et des maîtres naturels, ce serait très bien. Et est-ce que ceux qui disent que, au contraire, les esclaves que nous avons sous les yeux, eh ben, c'est bien? Eh ben, non, parce que on peut pas dire que ce soit naturel, parce que on peut supposer que les gens qui avaient besoin d'un esclave, qu'est-ce qu'ils allaient ? Ils allaient sur le marché, ils ouvraient leur porte-monnaie, ils allaient acheter un esclave. Or, c'est justement ça que condamne Aristote. Et dernier point, certains critiques, non dans le but forcément de venir au secours d'Aristote, qui par ailleurs n'en a pas besoin, ont dit. Il est possible qu'à nos yeux, ces chapitres apparaissent comme une apologie de l'esclavage. Il est probable qu'aux yeux de ses contemporains, ça pouvait apparaître comme une condamnation de ce qu'ils avaient sous les yeux.
Ce n'est pas la même chose que le pouvoir du maître et le pouvoir politique. Et que tous les autres pouvoirs ne sont pas identiques entre eux comme le prétendent certains. Car l'un s'exerce sur des hommes libres par nature, l'autre sur des esclaves, et le pouvoir du chef de famille est une monarchie, car toute famille est au pouvoir d'un seul, alors que le pouvoir politique s'applique à des hommes libres et égaux. On n'est donc pas appelé maître en vertu d'une science, mais du fait qu'on est tel, et il en est de même pour les conditions d'esclaves et d'hommes libres. D'un autre côté, pourtant, il y aurait bien une science du maître et une science de l'esclave. Des gens différents ont, en effet, des tâches différentes, les unes plus prisées, les autres plus indispensables, et comme le dit le proverbe, il y a esclave au-dessus de l'esclave et maître au-dessus du maître. Tout cela est donc science d'esclave, et quant à la science du maître, c'est celle de l'emploi d'esclave, car ce n'est pas l'affaire du maître d'acquérir les esclaves, mais de les employer. Cette science n'a rien de grand ni de vénérable. Elle consiste pour l'esclave à savoir ce qu'il doit faire et pour le maître à savoir le lui ordonner. C'est pourquoi ceux qui ont les moyens d'éviter ces tracas en laissent le soin à un intendant, tandis qu'eux-mêmes s'occupent de politique ou de philosophie. Quant à l'art d'acquérir les esclaves, à savoir l'art légitime, il diffère de ces deux savoirs, il appartient à l'art de la guerre ou de la chasse. Voilà ce qu'il en est de la distinction entre esclave et maître.
Des hommes bien balancés, je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébaston, jusqu'à des cocos, briseurs de coco, les demi-quarts de portions n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs qu'on voit par les tifs n'ont jamais tenté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors n'ont été qu'à des hommes forts. J'ai un faible pour l'effort, j'aime les torts et adore tous les picadors, tous les matadors, tous les matamors. J'ai un faible pour l'effort, aux petites gueules en or, je préfère le butor, le bandit arsor et la vache qui mord. J'ai un faible pour l'effort, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de schnor. Les tontors, les éteurs, les ténors, ça péteurs, les polices, les castors et les sergents-majors. Et les conquistadors.
Pauline Carton qui a son faible pour l'effort Francis Wolff. En fait, ce que chante Pauline Carton et ce que reprend Aristote à sa façon, c'est... la complexité du pouvoir entre les faibles et les forts, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a naturellement des faibles et des faibles, des faibles et des forts. Ce qui est intéressant, c'est que chez Aristote, et dans l'extrait que j'ai lu, le chapitre 7 du livre 1, on l'entend très bien, spécificité du pouvoir magistral et science du maître, la relation entre le maître et l'esclave est l'occasion pour Aristote d'examiner les liens interindividuels au sein de la cité. Car ce qui est très important dans le texte de la politique ou des politiques d'Aristote, c'est de voir comment lui-même pense la cité au sein d'une organisation qui n'est pas simplement, disons, institutionnelle, mais qui prend en compte ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble. Comment le lien entre chaque individu peut s'organiser pour produire les conditions optimales afin de parvenir au souverain bien.
Alors, le texte qu'on vient d'entendre, il a deux caractéristiques. Une caractéristique polémique, c'est qu'il est anti-platonicien. C'est-à-dire que ce que Aristote reproche, entre autres, à Platon, c'est d'avoir confondu tous les types de pouvoir ou d'autorité. Si on lit La République, on s'aperçoit qui est quand même le grand ouvrage de Platon, si on lit La République de Platon, on s'aperçoit au fond que c'est fondamentalement une même science, qui est la science absolue, celle que possède finalement seulement le philosophe. C'est cette science-là qui permet à l'homme, à l'être humain de gouverner. Et autrement dit, tous les types de pouvoir culminent dans le savoir. Ce que veut montrer Aristote, c'est d'une part qu'il y a des formes de savoir qui ne se réduisent nullement à la science, et que le savoir politique ou la compétence politique est d'un autre ordre, premièrement, et deuxièmement, qu'il faut distinguer trois types d'autorité ou de pouvoir, l'autorité despotique, celle du maître sur l'esclave, l'autorité, disons, royale, et l'autorité proprement politique. D'où il tire cette trilogie ? Il la tire du foyer. Dans un foyer, au sens grec du terme, il y a trois types de relations. Il y a la relation de l'homme et de la femme, le mari et l'époux et l'épouse, donc qui est l'unité de base, qui est la communauté de base, et c'est une communauté, pour Aristote, politique, entre êtres libres et égaux. Il y a une deuxième type, c'est une autorité, horizontale. Il y a une autorité verticale des parents sur les enfants, qui sont entre être libre et inégaux, qu'il compare à un pouvoir royal, dans lequel le roi est supposé, le père, les parents, agir en vue du bien de l'enfant. Donc c'est une espèce de paternalisme royaliste. Et il y a le troisième type de pouvoir, qui est le rapport des maîtres et des domestiques, puisqu'à l'intérieur du foyer, parlons plutôt de domestiques, hein, c'est des esclaves du foyer, mais qui ne sont pas forcément traités comme les esclaves qu'on imagine. Et ça, c'est un pouvoir despotique. Et ces trois types de pouvoir, eh bien, représentent, au fond, trois manières de gouverner. Et la seule vraie manière de gouverner pour Aristote, et c'est là où on revient au texte précédent, c'est la manière politique, c'est-à-dire entre êtres libres et égaux.
Politique signifie donc, chez Aristote, le fait de gouverner entre êtres libres et égaux. Vous parlez du pouvoir royal en disant qu'il se distingue du pouvoir politique.
Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer certains textes d'Aristote qui font une apologie, dans certains cas, pour certaines cités, pour certaines circonstances, d'un pouvoir de type royal, pour certains peuples, etc., du véritable pouvoir que Aristote qualifie de politique, qui suppose qu'on soit entre êtres libres et égaux. C'est-à-dire qu'entre êtres libres et égaux, le principe général de l'autorité politique, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'on est tantôt gouvernant, tantôt gouverné. D'une certaine manière, c'est ce qu'il appelle le régime qu'on peut appeler constitutionnel ou qu'on parfois en traduit par république, c'est-à-dire un pouvoir dans lequel tous gouvernent au profit de tous par alternance. Ça, c'est le véritable pouvoir politique. Maintenant, il faudrait rentrer dans le détail de la classification des régimes pour distinguer les régimes les bons régimes des régimes pervertis.
Mais alors, avant d'en venir là, il y a beaucoup de choses à dire. On va entendre un texte, le texte central de cet ouvrage sur la politique d'Aristote, dans lequel il définit l'homme comme étant un animal politique. Mais avant d'écouter le texte, une question quand même, parce que dans votre ouvrage que j'ai cité, Aristote et la politique, qu'on trouve au PUF, vous dites que la politique d'Aristote est le premier ouvrage de philosophie politique. Alors, deux questions à partir de là. Déjà, vous dites que c'est la politique et non pas les politiques, contrairement à la traduction de Pellegrin. Donc, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a une importance autre que simplement de l'ordre de la traduction? Et deuxièmement, c'est quand même, que faites-vous du coup de la République de Platon que vous avez évoquée, qui semble être une réflexion philosophique politique, s'il en est?
Alors oui, les deux sont en grande, les deux questions voilà. sont en grande partie sémantiques. Commençons par la plus simple. On avait l'habitude, au moins depuis le XIXe siècle, de traduire par la politique. Pierre Pellegrin, qui est un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui d'Aristote, a choisi les politiques. C'est un choix tout à fait possible parce que, évidemment, en grec, on cite toujours, que ce soit Aristote lui-même ou les auteurs ultérieurs, on dit toujours les sous-entendus livres ou écrits politiques, de la même façon qu'on dit les livres physiques ou les livres métaphysiques. Donc c'est toujours au pluriel. Hein, c'est toujours au pluriel. Pierre Pellegrin avait des raisons. Il estime que cet ouvrage est moins encore unifié que les autres. Il y a plus de couches. Bon, donc on peut. Je ne vais pas rentrer. Moi j'avais l'habitude de dire la politique. Alors, je continue à dire la politique. Mais si on veut dire les politiques, voilà.
Donc, les politiques, ce seraient les traités politiques, en fait.
Les traités
ou
les écrits politiques.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pensée politique d'Aristote.
Non, je pense. Voilà. Alors, la question est plus complexe parce que dans la politique ou dans les traités politiques, il y a différentes couches et il y a différentes manières d'aborder la politique. Tantôt de façon plus pratique, tantôt de façon plus spéculative, tantôt au ras des réalités quotidiennes, tantôt une espèce de grande construction pratiquement métaphysique sur ce qu'est la cité, etc. Tantôt des livres dans lesquels Aristote se fait quasiment le conseiller du prince de façon extrêmement, on dirait presque, enfin de façon réaliste, presque cynique, et tantôt où il raisonne de façon normative en distinguant le bon grain de l'ivraie, les bons régimes des mauvais régimes. Donc on a évidemment beaucoup de mal à saisir l'unité de cette pensée si on veut dire, qu'est-ce que vous êtes Aristote? Vous êtes démocrate ou pas? Bon, alors on a énormément de mal à le situer quelque part. Donc évidemment, de ce point de vue-là, on a affaire à un recueil dans lequel il y aurait de la sociologie politique, de la science politique, de la philosophie politique.
Du Machiavel avant l'heure.
Du Machiavel avant l'heure, de la psychologie morale, de l'ethnographie par moment, de la géopolitique. Bon, c'est un peu tout ça. Alors, maintenant, pourquoi ai-je pu dire, de façon peut-être un peu rapide, qu'il invente la philosophie politique? Précisément pour ça. C'est-à-dire que la République de Platon est sans doute un des plus grands ouvrages de l'histoire de la philosophie, mais est-ce vraiment un ouvrage qu'on appellerait de philosophie politique? Si on entend par un ouvrage de philosophie politique, un ouvrage qui met des instruments conceptuels au service de la réalité vécue de la cité, on ne peut pas le dire parce que d'une certaine manière, la philosophie qu'il y a dans la République, c'est toute la philosophie et toute la politique. C'est-à-dire que la politique est entièrement philosophique. Tout dans la République se tient de telle sorte que de la caverne qui est au centre de la République à la fin, le mythe d'air dans lequel on se demande quelle vie on va vivre et si l'homme est libre, etc. Tout cela est politique. Ce qu'il y a de propre à Aristote, c'est qu'il y a un domaine de la vie humaine, un domaine, je ne dirais pas absolument indépendant, mais qui a une certaine autonomie quand même, hein, qui est la vie de l'homme dans la cité, qui fait l'objet d'une réflexion politique. Alors, de ce point de vue-là, si on considère que la politique, c'est pas toute la vie, ni toute la philosophie, à ce moment-là, on peut dire que la philosophie politique, en ce sens précis, commence à Aristote.
Il est manifeste que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique et que celui qui est hors cité naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. Car un tel homme est naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de Trictrac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité.
A boy is born in hot time, Mississippi, surrounded by for what that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city.
L'homme est un animal politique qui doit vivre dans la cité. Stevie Wonder, lui aussi, vit pour la cité, living for the city. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h27. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Aristote, le maître de ceux qui savent, comme le disait Dante. Et pour l'occasion, nous parlons des textes politiques d'Aristote en compagnie du professeur de philosophie à l'École normale supérieure de la rue du Meux, Francis Wolff, auteur d'un ouvrage intitulé Aristote et la politique, publié aux éditions PUF. Le texte qu'on a entendu interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, Francis Wolff, est vraiment central dans les politiques d'Aristote. On le trouve, je le rappelle, au chapitre 2 du livre 1. On pourrait passer toute une journée, je pense, à commenter ce texte qui essaie de retracer la genèse de la cité. Un point avant qu'on commence cette explication-là, juste sur la cité, vous l'avez dit rapidement en passant tout à l'heure, au moment où Aristote écrit ces textes-là politiques, il faut savoir que la cité grecque est en train, alors sinon de disparaître, ou du moins de se déliter, il y a un paradoxe ici.
Oui, c'est vrai, la réflexion politique d'Aristote vient un peu comme la chouette de Minerve, au moment où la cité est en train de s'éteindre, du moins la cité autonome, la cité, je ne dirais pas fermée, mais la cité comme réalité politique dans laquelle Athènes en particulier a vécu pendant près d'un siècle. C'est vrai que avec la naissance progressive de l'Empire, l'autonomie des cités va disparaître. Et on peut dire que Aristote raisonne sur une forme moribonde, c'est vrai.
Ce qui explique peut-être la force de son affirmation. Il dit quand même que l'homme est un animal politique par nature, c'est-à-dire que peut-être déplorant la fin ou le délitement de certaines cités, il revendique, il insiste sur le caractère naturel de l'homme comme animal politique. C'est très fort comme position philosophique, ça.
Alors oui, vous avez raison, il faut entendre politique au sens fort, c'est-à-dire non pas simplement un animal social, un animal qui aime bien vivre avec les autres, un animal qui vit en meute, un animal grégaire. Non, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est un animal qui vit politiquement, dans lesquelles, quand il y a police cité, il y a des questions de division du pouvoir, il y a question de justice, il y a les questions de filia, amitié, fraternité, et il y a au fond l'idée d'un nous. Bon. Et c'est vrai que c'est ce nous, nous autres Athéniens, par exemple, qui est en train de se perdre. Donc cette politique veut dire ce qui concerne les affaires communes, mais veut dire aussi, de façon plus précise, les affaires de la cité-État, qui est en effet en train de se perdre. Alors vous l'avez dit, ce texte est central, il est connu, il est d'une richesse indéfinie. Peut-être qu'on peut décomposer les choses en partant, en effet, d'abord de la thèse, et après de voir les arguments. La thèse, en effet, c'est que la cité est un être naturel. La cité est un être naturel, ça nous paraît très étrange, parce que pour nous, la cité, l'État, ce sont des êtres historiques, institutionnels, conventionnels. Je crois que ça a trois sens chez Aristote, cette thèse. D'abord, ça veut dire que pour lui, la cité, elle est née naturellement. Elle est née naturellement à partir de communautés plus primitives, qui étaient les foyers, les villages, réunion de foyers a donné des villages, réunion de villages a fini par donner une cité, et il ne faut pas aller au-delà. C'est-à-dire que la cité, c'est le maximum, la communauté maximale, au-delà de laquelle, eh bien, on perd quelque chose du politique, on perd quelque chose du juste, on perd quelque chose de l'amitié dont je parlais. Au-delà, il y a quelque chose qui se perd pour le bonheur de l'homme. Et quel est le maximum ? Le maximum, c'est l'autonomie, l'autarcie, la possibilité de vivre ensemble sans avoir besoin des autres. Donc, c'est un développement naturel, exactement comme un être vivant. La nature, pour Aristote, c'est ce qui a en soi-même le principe de son mouvement. Eh bien, elle est née d'une façon naturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu besoin, à un moment donné, que l'homme donne un coup de main, comme le médecin donne un coup de main à la nature pour rétablir la santé. Un législateur, par exemple, qui a permis à telle ou telle cité d'avoir une bonne constitution. Mais c'est quand même le développement d'un être naturel. La deuxième...
Un point avant que j'arrive au second aspect, c'est le fait de dire que la cité est naturelle. Aristote s'oppose, alors même si les textes auront lieu bien après, à tous les tenants du contractualisme.
Exactement,
ça veut dire que la constitution de la politique ne naît pas d'une décision commune qui va constituer un État, un gouvernement, mais qu'elle est déjà là. Donc ça, c'est très important pour le comprendre dans l'histoire de la philosophie politique.
Tout à fait. Alors, il y a en effet, Aristote, par cette thèse, s'oppose à ce qu'on peut appeler les contractualistes qui l'ont précédé, certains sophistes, comme Lycophron, en partie Protagoras. Il va y avoir après lui un très grand contractualiste qui est Épicure, pour lequel la cité, qu'est-ce que c'est ? C'est une simple convention entre des êtres proches qui décident un jour, je le dis en grec, mea dikein, mea dikestai, ne pas se nuire, nuirait pas aux autres si les autres s'engagent à ne pas me nuire. Ça, c'est le contrat originel que Épicure, après Aristote, va en quelque sorte dire comme poser comme origine de la cité, de la vie politique. Évidemment, toute la pensée classique, Locke, Hobbes, Rousseau, va partir de cette situation d'un état de nature opposé à l'état civil, dans lequel l'état civil sera la négation de l'état originel. Donc ça, en effet, c'est anti-contractualiste, cette thèse. Le deuxième aspect de la thèse, c'est que l'homme est un animal naturellement politique. L'être humain est naturellement politique. Ça signifie que... on reviendra sur l'argument central qui est le langage. Mais ça signifie que... il est équipé d'une telle façon, avec en particulier le langage, qu'il ne peut réaliser toutes ses potentialités, toutes ses facultés qu'au sein non seulement d'une vie sociale, communiquer ses besoins, etc., mais qu'au sein de quelque chose qui ressemble à la police, à la cité. Échanger, dialoguer et être capable de s'opposer. Je dirais que se contredire. Se contredire, c'est l'essence même du langage et l'essence même de la politique. Pourquoi se contredire ? Ben, la contradiction, c'est le maximum de négation, si je puis dire, dans le minimum de violence. Quand je vous contredis sur ce qui est juste et pas juste, je suis à l'intérieur de la cité. Et au-delà, ben c'est l'ennemi, c'est-à-dire c'est la violence, il n'y a plus de contradiction parce qu'il n'y a plus de dialogue. Et si nous étions tous d'accord, nous ne serions pas non plus dans l'élément politique. Donc la possibilité de se contredire à propos des valeurs, c'est une façon pour l'homme de réaliser naturellement son essence.
Et d'ailleurs, ça, dans l'éthique à Nicomaque, il montre bien la difficulté de définir ce que serait que le souverain bien, que chacun a sa définition du bien, et qu'en ce sens, du coup, si la politique et la cité visent à instituer la vie bonne, en réalité à parvenir au souverain bien, alors la discussion est nécessaire pour pouvoir s'accorder sur ce que serait ce bien. Ici, tout est cohérent entre son éthique et sa politique.
Tout à fait, et il est vrai que c'est un aspect à la fois essentiel et le plus étonnant de sa politique, c'est que la politique ne vise pas simplement, comme chez beaucoup de contractualistes, ne vise pas simplement à, satisfaire nos besoins, une espèce de grand marché, n'est-ce pas, dans lequel on est capable d'échanger les besoins de l'un contre les besoins de l'autre. Ça n'est pas non plus la fin d'une sorte d'état de guerre originel dans lequel on pacte de non-agression, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est simplement la partie négative, hein, qui explique peut-être pourquoi les cités sont nées, mais à partir du moment où elles existent, elles peuvent réaliser le bonheur. Donc, non pas le vivre ou le survivre, mais le bien vivre. Bien vivre, parce qu'on ne peut pas bien vivre en dehors de ses semblables sous le toit de la cité, en dehors d'une communauté. Et Aristote ajoute, celui qui vivrait seul, eh bien serait ou comme un dieu, parce que les dieux peuvent vivre seuls, ils se satisfont d'eux-mêmes, soit comme une bête sauvage. Mais l'humanité, elle a besoin de la police de la cité pour vivre.
Alors là aussi, il y a encore un autre paradoxe, parce que dans le chapitre 10 de l'Éthique à Nicomaque, Aristote décrit la contemplation comme étant le propre d'un homme seul qui parviendrait à se hisser en dehors des problématiques de la vie quotidienne et qui serait, selon lui, l'exemple absolu du bonheur. Donc d'un côté, l'homme ne peut pas être heureux en dehors de la communauté. De l'autre, il faut quand même s'extraire un peu de cette communauté pour être le sage qui lui seul peut, dans la contemplation, être pleinement heureux.
Alors vous avez raison, ça fait partie de l'intérêt d'Aristote de voir les différentes pistes qu'il ouvre à la fin de l'Éthique à Nicomaque, qu'il semble faire l'apologie d'une vie qui ne serait pas politique ou pratique, qui ne serait pas la vie de l'homme prudent dans la cité, mais qui serait la vie contemplative, non pas du moine, mais du savant, qui peut, pendant un court moment ou de courts instants, contempler et avoir une vie ainsi quasi divine. Alors c'est toute l'ambiguïté, en effet, là, qui ressortit plus à l'éthique qu'à la politique, des deux manières pour l'homme de réaliser sa rationalité, être raisonnable au milieu de ses semblables, ou pouvoir réaliser sa rationalité dans la science, la contemplation, et dans, en quelque sorte, la connaissance pure. Mais dans la politique, évidemment, le bonheur, c'est un bonheur dans la communauté.
Lady, Madame le ministre de l'Éducation.
Merci, Monsieur le Président. Le très honorable gentleman sait parfaitement que nous n'avions aucune alternative à la fermeture de ces écoles. Parce que ces chers amis, les syndicalistes, ont appelé à la grève délibérément en vue de paralyser notre économie.
N'importe quoi.
Il n'y a aucun enseignant qui puisse travailler quand il n'y a ni chauffage ni éclairage dans sa classe. Et je pose la question au très honorable gentleman, de qui est-ce la faute si on en
c'est
est là
bon, Mais pour ce qui est de l'honorable lady, piailler ou ne pas piailler, telle est ma question. Et si elle veut être prise au sérieux, elle a plutôt intérêt à calmer ses ardeurs.
Ça, c'est très drôle, ça.
Si le très honorable gentleman avait l'extrême obligeance de porter son attention sur le contenu de mes déclarations, plutôt que sur le ton que je prends.
Il faut pas se faire d'illusions. Les chances que j'ai d'être élue sont absolument infimes. D'ailleurs, je devrais plutôt dire inexistantes. Mais je vais me présenter. Je vais me présenter, ne serait-ce que pour les asticoter, les obliger un peu à réaffirmer les principes sur lesquels les conservateurs de ce pays doivent baser leur action. Quand je pense à tout ce que je dois faire...
Tu es insupportable, Margaret. Tu en es consciente?
Dennis, tu as épousé une femme dont tu sais pertinemment qu'elle a voué sa vie au service de l'État. Et il est de mon devoir...
Ah non, toi, tes histoires de devoir.
Il est de mon
c'est
devoir.
C'est l'ambition qui t'a mené jusqu'ici. L'ambition. Et ceux qui t'entourent, moi, les enfants, on n'a qu'à tous aller se faire voir ailleurs.
C'est la Dame de Fer, interprétée par Meryl Streep dans le film éponyme de Phyllida Lloyd, qui date de 2011, qui nous permet d'aborder la deuxième partie du texte qu'on a entendu tout à l'heure, Francis Wolff, l'importance du langage. Le texte disait, certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, c'est ce qu'on le rencontre chez les animaux, ce qui fait de l'homme qui contredit Madame Thatcher au Parlement un animal, puisque lui-même ne s'intéresse qu'à la partie, disons, piaillante et désagréable du discours de Madame Thatcher. Et puis, la deuxième partie, où elle est en conflit avec son mari, qui lui dit qu'elle n'est portée que par l'ambition, ce qui permet ici d'aborder un point quand même que le texte n'évoque pas directement, qui est de savoir si tous les hommes sont politiques, par nature politique, qu'en est-il des carrières politiques? Est-ce qu'il y a des gens, des hommes, des citoyens qui sont faits plus particulièrement que d'autres pour gouverner, qui seraient mus par cette ambition-là, et ce qui ferait que du coup l'homme est par nature politique, mais pas de manière égale, certains le sont plus que d'autres?
Oui, Francis Wolff. On peut jouer sur les mots quand on parle aujourd'hui d'un homme politique qui, en quelque sorte, veut le pouvoir, veut la conquête du pouvoir, on dit « Ah, c'est un animal politique
ouais. ».
Bon, c'est pas, je crois, dans le sens que veut dire Aristote, parce qu'il ne parle pas de tel ou tel être humain, il parle de l'humanité en général. Disons, c'est peut-être le moment d'introduire la différence essentielle entre les bons régimes et les mauvais régimes. Pourquoi? Parce que Aristote hérite, notamment d'Hérodote, une classification des régimes selon le nombre de gouvernants. Un, plusieurs, tous. Un, disons, gouvernement royal. Plusieurs, disons, les meilleurs, entre guillemets, aristoi en grec, aristocratie, hein, qui est le vieux pouvoir héréditaire, et tous, là, appelons ça la démocratie. Alors, cette classification, il la reprend, mais elle ne lui convient pas exactement, parce qu'il va complexifier le tableau en reprenant un, plusieurs, tous, mais en distinguant le cas où un, plusieurs, tous, agissent en vue de leur propre bien, ou agissent en vue de l'intérêt général. Ce qui va lui faire une classification des régimes en six cases. Un, gouvernement royal ou gouvernement tyrannique. Le tyran exerce le pouvoir pour lui seul. Donc ça, c'est deux formes d'animaux politiques. Le royal qui se mettrait entièrement au service de l'intérêt général et le tyran qui met toute la cité à son propre service. Corruption, tout ce qu'on veut. Aristocratie, ce serait les meilleurs qui réfléchissent pour le bien commun. Oligarchie, qui est sa perversion, les riches qui gouvernent pour leur propre bien. Et en bas, eh bien, là aussi, deux catégories. Le démos, c'est-à-dire une partie du peuple. On peut penser aux démocraties populaires, dictature du prolétariat, je ne sais quoi. C'est-à-dire qui gouverne pour l'intérêt d'une partie du peuple qui est la majorité. Et d'autre part, la souveraineté populaire qu'il appelle le régime de la politéia, la constitution, la république, dans lequel, eh bien, tous gouvernent dans l'intérêt de tous et non pas d'une fraction. Donc, si on veut, il y a à chaque fois deux types d'animaux politiques. Il y a les animaux politiques qui cherchent le pouvoir parce qu'ils estiment qu'il est juste pour eux de commander. Et ça, à chaque fois, Aristote les déboute tous un à un. La justice dans la cité ne consiste pas à prétendre que ça obéit au principe de justice distributive. Nous devons gouverner parce que nous sommes ceci ou cela. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus intelligents, nous avons le droit à. Le critère, c'est en vue de quoi on gouverne et non pas qui gouverne. Donc, à chaque fois, il y a deux types d'animaux politiques, ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et ceux qui se mettent au service de la cité. Alors, bien entendu, la suprémabilité de l'homme politique auquel on pense est de dire qu'on sert les intérêts généraux. Mais c'est rarement le cas.
Bah alors, qu'en est-il justement, cher Aristote, puisque vous avez évoqué la diversité des types de discours, hein, parfois sociologiques, parfois anthropologiques, et parfois, peut-être à la manière de Platon, disons utopique ou idéaliste, il décrit ce que pourrait être une forme de cité idéale. Est-ce qu'on peut y voir là-dedans une forme d'apologie de la démocratie? Et si oui, comment la définit-il, pardon, parce que c'est un sens qui est bien différent de celui que nous lui donnons aujourd'hui.
Alors, il faut voir que le mot démocratie est un mot assez piégé. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs dans le texte même d'Aristote, il varie. Il est probable que le mot démocratie, il y a souvent cela dans l'histoire, était au départ une appellation péjorative. Lorsque les aristocrates avaient le pouvoir, il y avait deux grands partis à Athènes, disons le parti aristocratique et le parti démocratique. Ils appelaient leurs adversaires des démocrates. Mais des démocrates, c'était péjoratif. Il est probable qu'à l'origine, l'idée qu'une cité puisse être gouvernée par tous portait un nom qui n'était pas du tout démocratie, on trouve ça chez Hérodote, mais portait le nom d'isonomie, c'est-à-dire répartition égale du pouvoir par tous, ou la même loi pour tous. Il y a deux étymologies possibles du mot isonomie. Mais vu du point de vue aristocrate, l'accusation était la suivante. Vous prétendez gouverner au nom de tous, vous prétendez que nous avons un pouvoir, kratie, kratein en grec, c'est-à-dire pouvoir, force, etc. Et ben vous êtes le pouvoir, mais le pouvoir du démos, c'est-à-dire de la populace. Donc démocrate, c'était sans doute une appellation péjorative. Alors si on entend par démocratie ce sens-là, c'est-à-dire le pouvoir ou la force d'une partie, la partie, disons, la moins éduquée, puisque c'était le présupposé de cette appellation de la population, à ce moment-là, Aristote est presque aussi sévère, pas autant, vis-à-vis de la démocratie que Platon. Mais si on entend ce que nous entendons par démocratie, c'est-à-dire la souveraineté populaire, c'est-à-dire un régime dans lequel un certain nombre de décisions sont prises par l'ensemble de la population, ou des citoyens plus exactement, à ce moment-là, Aristote est tout à fait en faveur de ce type de délibération collective. Il y a un chapitre, le chapitre 11 du livre 3, dans lequel il fait l'apologie des décisions prises par une assemblée en disant qu'elles sont à la fois meilleures, plus efficaces que celles de l'homme que prendrait un homme seul, même le meilleur. Et ça, c'est très antiplatonicien. C'est-à-dire, le meilleur des hommes ne peut pas prendre de décision meilleure qu'une assemblée faite d'hommes quelconques. Ça, c'est un argument assez étonnant. Et peut-être qu'il va tout à fait dans le sens contraire du texte que vous avez initialement cité, et avec des arguments assez forts pour défendre l'idée des décisions, de la valeur des décisions collectives. Alors, peut-être qu'on peut...
En conclusion, oui. Il est là. Alors je vous laisse parce qu'on pouvait entendre ce texte-là, on n'a plus le temps d'entendre le texte que vous citez en entier, malheureusement. Donc peut-être sur cette question de la démocratie, vous avez un dernier mot.
Pourquoi la souveraineté populaire a, dans certains cas, délibération d'assemblée ou décision judiciaire, une supériorité sur les décisions individuelles? Parce qu'une assemblée, dit Aristote, peut voir les choses sous un grand nombre d'angles possibles. Et il fait une comparaison avec le jugement qu'on appellerait aujourd'hui esthétique. Certains apprécient tel aspect, certains apprécient tel autre aspect. Eh bien, cette multiplicité d'expériences joint à quelque chose de très important qui s'appelle la philia, l'amitié, la fraternité. On pourrait parler aujourd'hui plutôt de fraternité, en effet, voire certains diraient l'unité nationale. Eh bien, ce qui fait l'unité de cette assemblée dans la diversité de ses points de vue, cette diversité d'expériences, elle est supérieure à la science. Et c'est pourquoi, contrairement à Platon, ça, c'est de la réflexion de philosophie politique proprement dite.
Miss Démocratie, cette saison, porte un petit gilet par balle. Quand elle défile sur le podium, façon fleur du mal, elle veut que notre bonheur, petite sœur. Change de couleur toutes les heures. Elle a peur qu'on lui trouve mauvaise mine. Alexander John.
Merci beaucoup Francis Wolff d'être venu nous parler d'Aristote et de la politique d'Aristote. Aujourd'hui, je renvoie à votre ouvrage Aristote et la politique qu'on trouve au PUF. Et puis plus récemment, Notre humanité d'Aristote aux neurosciences chez Fayard en 2010. Et avant de vous donner la parole, Géraldine, j'annonce un article sur Aristote, continent de la connaissance agrandie qu'on trouve dans l'humanité aujourd'hui. Par le journaliste Nicolas Dutant, un article passionnant sur l'actualité éditoriale d'Aristote. Il est 10h51, vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mesnas-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Vous parlez d'un mythe aujourd'hui, mais pas d'un mythe platonicien.
Pas d'un mythe platonicien, on reste dans le domaine de la politique, à l'occasion de l'apparition du mythe de l'impartialité. C'est de Jean-Fabien Spitz, et c'est aux éditions PUF. On définit de manière classique le mythe comme une fiction inventée de toutes pièces. Le mythe serait une sorte de mensonge, mais un mensonge avec une utilité, celle de nous fournir des modèles, un sens à nos comportements. Et à côté de nos grands mythes, plus ou moins modernes, plus ou moins classiques, comme Faust, Prométhée ou le Père Noël, bientôt à l'approche des fêtes, le philosophe Jean-Fabien Spitz, spécialiste de philosophie politique, en pointe un autre dans son dernier ouvrage paru aux éditions PUF. Ce mythe qu'il pointe peut paraître moins évident, peut-être plus insaisissable, et c'est le mythe de l'impartialité. Alors ce mythe de l'impartialité a l'utilité aussi de nous fournir un modèle de fonctionnement politique, social et juridique. Depuis la destruction des privilèges et son exigence de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, l'impartialité, nous dit Jean-Fabien Spitz, serait même le fondement de notre liberté moderne. Elle est ce qui permet à chacun de bénéficier des mêmes droits, sans préférence pour certains ou pour d'autres. En cela, l'impartialité serait donc bien un mythe, car c'est bien quelque chose de construit qui maintient un équilibre entre les hommes. Il y a bien une utilité pratique à ce mythe. Mais l'impartialité est aussi un mythe parce qu'elle en a le mauvais côté. Et oui, son côté mensonger. Et c'est précisément ce qu'analyse Jean-Fabien Spitz en partant dans cet ouvrage de la culture politique américaine et de ses discours juridiques de 1870 jusqu'à 1940. Non seulement, nous dit-il, l'impartialité ne prend pas en compte les différences des individus, ce qui fait qu'elle peut être paradoxalement injuste, mais en plus, justement parce qu'elle conduit à l'inégalité, elle met à mal l'autonomie de chacun des individus. Alors comment faire? Faudrait-il repenser le droit en fonction de la diversité des situations et abandonner l'impartialité ou tenir à ce mythe à tout prix, eh bien c'est justement parce qu'un mythe fonde la société, mais jusqu'à la figer, qu'il faudrait le remettre en question, et c'est bien l'objet de cet ouvrage.
Merci Géraldine. Le mythe de l'impartialité par Jean-Fabien Spitz, et c'est aux éditions
PUF.
Il est déjà sorti. Disponible en librairie, donc merci à vous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions consacrée à Aristote. Après Pierre Pellegrin lundi et Francis Wolff aujourd'hui, demain ce sera Anne Mercker qui viendra vous parler de l'âme en se demandant si l'âme serait le propre de l'homme. Mais d'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins où vous pourrez réécouter mais aussi télécharger, podcaster cette émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.